Donc bonsoir Claude Gilbert Dubois. Alors vous êtes visiblement bien connu ici à Bordeaux. Vous avez en effet enseigné longtemps à l'université Bordeaux-Montaigne, jusqu'en 99 je crois. Ensuite, vous avez, et vous le prouvez, enseigné à l'université du temps libre, où pareil, les cours étaient suivis abondamment. Alors vos axes de recherche pendant toutes ces années sont à la fois passionnantes et originales, assez transversales, même très transversales, entre mythologie, histoire des religions, études littéraires sur l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est justement une thématique qui va nous concerner ce soir, puisque c'est un petit peu le fil conducteur de la collection Eidolon, qui à la base était une revue, que vous avez fondé en 1977, édité donc aux presses universitaires de Bordeaux. Et le livre dont nous allons parler ce soir, c'est le tout dernier numéro de cette collection. Donc, entre mythes et histoire, quelques cas de clair-obscur dans l'histoire des débuts du christianisme. Alors, j'aimerais bien commencer peut-être par un mot autour de cette collection, donc de vos travaux de recherche autour donc de l'imaginaire à travers l'histoire ou à travers la littérature, à travers les mythes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous présenter aussi l'originalité, la singularité de votre travail ?
Vous voulez que je vous parle donc de ce que c'est que ces études sur l'imaginaire ?
Oui, enfin, si ça ne vous dérange pas.
Pas du tout, au contraire.
En guise d'introduction.
Voilà, ma formation est une formation très classique, je suis agrégé de lettres classiques et j'ai obtenu une chaire à l'université Bordeaux-Montaigne, qui s'appelait alors Faculté des lettres de Bordeaux, hein. J'ai obtenu une chaire pour enseigner la littérature du XVIe siècle, la littérature française du XVIe siècle, après avoir fait deux thèses, parce qu'à l'époque il fallait en faire deux. L'une c'était sur le mythe gaulois au XVIe siècle, pour les origines de la France, et l'autre, c'était la conception de l'histoire au XVIe siècle. Cette conception de l'histoire, déjà, oscille sans arrêt entre la recherche du fait historique, du fait vrai, et puis d'autre part, l'intrusion de structures imaginaires qui sont essentiellement théologiques et qui viennent donc interférer avec la recherche du fait. Si vous voulez, en 10 ans là, aujourd'hui dans cette publication entre mythe et histoire, je me situe en effet dans cette recherche qui a été permanente pendant toute ma vie d'adulte, en tout cas. Voilà, alors ces études sur l'imaginaire sont à l'origine initiées par le philosophe Gaston Bachelard et par son disciple qui s'appelle Gilbert Durand. Durand, on nous confond souvent tous les deux. Gilbert Durand, donc, qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle. Mon livre entre dans cette discipline d'anthropologie culturelle. Alors l'anthropologie culturelle, j'ai obtenu d'ailleurs deux années d'exercice pour me recycler dans cette discipline, et ça m'a permis de faire la connaissance de personnes qui ne sont pas du tout de ma discipline originaire, la littérature française du XVIe siècle, des gens comme alors Gilbert Durand, qui était le maître d'œuvre, mais aussi Edgar Morin, sociologue qui s'est beaucoup intéressé aux rumeurs, mais aussi Duvigneau, qui s'est intéressé au théâtre, René Thom, médaille Fields de mathématiques, et qui est l'auteur d'une théorie très importante pour l'explication de l'histoire, la théorie des catastrophes, et puis quelques autres, Roger Bastide, l'ethnologue des Indiens d'Amazonie. Ça m'a permis de m'élargir. Jusqu'ici, c'était plutôt une avancée à travers une porte étroite, un couloir étroit, les études sur le XVIe siècle, c'est des études détaillées. Là, il y avait une ouverture, une manière d'occuper les quatre directions de l'espace. Le progrès devant, la rétrospection derrière, ça c'est important aussi, hein, la droite et la gauche. Bon, voilà comment au départ de spécialistes de littérature française du XVIe siècle, je suis devenu un de ces membres de ce grand groupe disciplinaire qu'on appelle l'anthropologie culturelle. À l'intérieur de l'anthropologie culturelle, il y a une section particulière qu'on appelle l'histoire du fait religieux. Vous en avez entendu parler parce qu'il était question à un moment donné d'en faire un enseignement dans les écoles. Et puis ça a raté. Et ça a raté pourquoi ? Il faut demander à certaines religions, du moins, ou en tout cas à certaines tendances à l'intérieur des religions, de s'ouvrir un peu les œillères. Voilà, c'est ce qu'il faudrait. On n'a pas pu l'obtenir. Les religions veulent garder leur enseignement pour elles-mêmes.
Alors, c'est assez intéressant, c'est même passionnant, justement, d'appliquer ce travail autour de l'imaginaire sur les questions qui concernent le livre de ce soir, donc l'histoire des débuts du christianisme. Alors, c'est quelques cas de clair-obscur. C'est en trois grands segments. Une première partie sur Jésus. Et évidemment, on peut se poser des questions entre mythe, histoire, historicité, imaginaire, entre la naissance, l'enfance et la résurrection. Une deuxième partie autour de l'Apocalypse, troisième partie autour des persécutions. Qu'est-ce que vous entendez par clair-obscur ?
Ah oui, alors ça, c'est une idée qui a été développée par Gilbert Durand, en particulier dans sa théorie de littérature diurne, littérature nocturne, activité diurne, activité nocturne, c'est-à-dire que toute chose en ce monde marche au rythme de la lumière. Qu'il y a de la lumière, c'est le jour, c'est la clarté, mais il y a également la nuit. Récemment, je parlais encore d'un caprice de Goya qui s'intitule « Le songe de la raison », « Le sommeil de la raison fait sortir les monstres ». Eh bien, dans Goya, il y a cette part de lumière, c'est un homme des Lumières de la fin du XVIIIe siècle, admirateur de tout ce qui est de l'ordre, de la raison, de la clarté, de l'éclat. Mais c'est également un homme qu'on peut appeler pré-romantiste, dans ce sens où il a l'intuition des profondeurs, et les profondeurs, c'est comme les profondeurs de la Terre, c'est toujours obscur. Alors, dans toute chose, il y a une part de clarté, il y a une part d'obscurité. D'habitude, on me demande « Quelle est votre religion ?» Quand je faisais mes cours sur la religion, on me demandait « Quelle est votre religion ?» Ben, je répondais « Ça ne vous regarde pas, c'est une affaire privée, mais ça ne concerne que moi. Hein. Ce que je vous dis en public est extérieur à moi aussi. Je l'ai emprunté aux uns, aux autres, j'ai arrangé ça. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle est ma religion. » Je suis quand même obligé de vous dire, parce que quand je me suis occupé de l'islam, c'était mon avant-dernier livre, bon, je pouvais prendre mes distances, mais là, quand il s'agit du christianisme, on est tous plus ou moins impliqués. Même quand on est contre, on est impliqués, parce que ça nous entoure. Hein. Et je me souviens, un souvenir de licence, vous voyez, Bac+3, il y avait Bac+3. Alors, je fais un cours, et puis c'était sur le XVIe siècle. Bon, Dieu sait si la religion chrétienne a subi un certain nombre de blessures à cette époque, hein, d'un côté comme de l'autre. Et j'ai été obligé de monter un peu plus haut et de parler justement de l'attribution que l'on fait à un tel ou à un tel, à Saint Jean en particulier, de l'Apocalypse et d'un évangile, en disant... il est vraisemblable et même à peu près avéré que ce n'est pas Saint Jean l'apôtre qui est l'auteur de ces ouvrages. À la fin de mon cours, il y a deux groupes qui sont venus me trouver. Alors l'un qui me dit « Pourquoi vous nous parlez de religion ? On est dans un établissement laïque. » Alors je leur réponds « Écoutez, la religion fait partie de l'enseignement laïque, et ça ne vous intéresse pas de savoir dans quel milieu. Simplement, pour que vous le sachiez, pas pour que vous adhériez. Moi, je veux pas que... Ça m'est égal que vous adhériez ou pas. » Et puis, il y a un autre groupe qui arrive, et cela était très monté. « Pourquoi avez-vous dit que ce n'est pas l'apôtre Saint-Jean qui est l'auteur de l'Apocalypse et de l'Évangile ?» Mais j'aurais dit, mais on le sait depuis longtemps. Même des manuels comme l'histoire des religions de Chesnay-Grousset qui date de, je me souviens plus quand, mais enfin, c'est quand même assez lointain, en parle. À l'évangile de Jean, on a fait des études très précises sur l'écriture. Il y a 5 formes d'écriture différentes. Ça a duré des décennies, ça, en écriture. Donc on ne peut pas dire que c'est l'apôtre Saint-Jean. Ah, mais c'est pas ce qu'on nous dit. Ben, monsieur l'aumônier, sans doute, a plus de confiance que monsieur le professeur. Voilà, mais moi je vous dis, renseignez-vous. Hein, voilà. Bon, c'était pour vous dire hein, à peu près combien ces problèmes quand même restent liés à une émotivité. Hein. Alors... En effet, je ne peux pas m'empêcher, cette fois-ci, simplement pour expliquer le clair et l'obscur.
Bien sûr, bien sûr.
De vous dire comment ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé comme ça.
Et vous précisez d'ailleurs qu'effectivement, face à ces clairs-obscurs, il y a 3 attitudes, soumission, interprétation ou négation. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. On peut osciller de l'un à l'autre, mais...
Absolument.
Oui, oui. Et alors justement, d'un point de vue un peu plus méthodologique, comment travaille-t-on sur Jésus ? Parce que c'est quand même assez, assez précis. Alors je tiens à préciser que c'est un ouvrage qui est fouillé, mais qu'on comprend. Mais c'est vrai que c'est très, très fouillé. Oui. Alors rien que sur Jésus, donc il y a la naissance, l'enfance dont on ne sait quasiment rien. La naissance, elle est dites dans les évangiles, mais dans différents évangiles qui ont été écrits 40 ans après la mort de Jésus, l'enfance dont on ne sait rien, et les mystères de l'incarnation et de la résurrection. Comment on enquête sur...
C'est en effet bien difficile, et je vais vous le dire.
Est-ce
je
que vous
viens
comparez...
de lire un ouvrage d'Amélie Nothomb qui s'appelle « Soif »,
oui, oui.
Hein, qui fait parler Jésus.
Beaucoup de gens.
Ah, faire parler, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Autant on peut faire parler n'importe. Quand Marguerite Yourcenar fait parler l'empereur Adrien, oui, là, c'est possible, hein, c'est possible. Faire parler Jésus et entrer à l'intérieur, c'est vraiment compliqué. Hein.
Et parce que vous dites un récit.
Alors,
n'est pas
elle
une
est romancière, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, bien sûr. Moi, je me prétends. Sans doute une prétention trop développée. Je me prétends en tout cas chercheur en histoire et ma position est différente. Mon point de départ, je vais vous le dire, il est affectif. Hein. C'est ça. Ça, c'est les 4 évangiles réunis en un volume qui sont un cadeau de mon oncle mort à la guerre de 14-18 et dont j'ai hérité. Ça a été le premier ouvrage que j'ai lu. Je suis un autodidacte en matière de religion. J'ai lu cet ouvrage et j'ai eu un éblouissement. Vous savez, dans le roman de Flaubert, là, quand le héros principal voit la femme qu'il a aimée, qu'il va aimer, Madame Arnoux, ce fut comme une apparition. Je ne dirais pas « ce fut comme une apparition », ce fut comme un éblouissement. C'était ça, la clarté. La clarté, c'était mon Jésus. C'était la parole de Jésus. C'était Jésus discourant au milieu des champs de la Galilée, parmi les lys qui sont dans les champs et le chant des oiseaux. C'était cela. Oh, quel éblouissement de dire... « Aimez-vous ?» Il fallait y penser, c'est comme le feu de colon. On n'y pense pas. on ne voit même pas quelle est la force de ce « aimez-vous ». Aidez-vous les uns les autres. Parle à la Samaritaine, c'est-à-dire parle à l'étranger, à l'étrangère. J'ai soif, donne-moi à boire. Donne-lui à boire tout de même, dit la Samaritaine. Laissez venir à moi les petits. Les petits-enfants, mais pas seulement les petits-enfants. Formidable. Ah, j'étais, comment on dit aujourd'hui les jeunes, bluffé, j'étais bluffé. Pardonne. Ça aussi, hein. Il y a les vendettas qui durent de génération en génération, on ne sait plus même de quoi il s'agit au départ. Il y a les ressentiments qui n'en finissent plus. Vous nous avez colonisés, vous êtes terminé depuis longtemps, mais ça dure encore, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout ça par terre. Il dit, mais regardez comme c'est beau. Ah oui, comme c'est beau. C'est ça la clarté. Puis à côté de ça, il y avait l'obscurité. Alors l'obscurité, c'est des choses qui ne m'avaient pas intéressé. La naissance de Jésus ne m'a pas intéressé. Comment il est né? Bon, il est né, comme tout le monde, quoi.
Pourtant, vous en parlez.
Un peu mieux que certains. Ouais. Son procès, ben oui, ben c'est le procès d'un juste, oui, c'est une erreur judiciaire. Et la résurrection, ah ben oui, ben ça c'est très bien, il les a eus. C'est mieux que D'Artagnan, c'est mieux que le capitaine Nemo. Voilà comme je raisonnais, un petit gosse. Et ça c'était l'obscurité, je ne m'en occupais pas. Mais ça c'est devenu vraiment une obscurité très épaisse lorsque j'ai commencé mon éducation religieuse publique. Alors, il n'était pas question de Jésus, il était question de Notre-Dame. J'aime bien Notre-Dame. Mais la question était de savoir si elle était restée vierge toute sa vie. Non, mais... Aimez-vous, aidez-vous, appelez les petits, pardonne. Est-ce que c'est de la même espèce? Est-ce que c'est de la même nature, ces propositions et celles-ci? Enfin, pourquoi il s'intéresse à ça? Ça, c'était l'obscurité. Et plus tard, quand je suis devenu grand, j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est un fait, c'est ça qui me turlupinait. Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Mais eux, ils le trouvent intéressant. Ils ne parlent que de ça. Alors, comment ça se fait? Ben oui, j'ai voulu essayer de voir comment ça pouvait se faire. Il y avait autre chose. Alors le procès et la crucifixion. Mais là encore, il y avait des croix partout. Il y avait des corps de Jésus sur sa croix. Et il y avait des représentations du chemin du supplice avec les stations. Et puis on y ajoutait les tortures subies par les premiers martyrs, etc. Mais ils sont pas un peu pervers, ces gens-là, de nous exposer uniquement des tableaux ensanglantés comme ça? C'est une autre question que je me posais. Moi, je trouve qu'ils sont pervers. Mais peut-être qu'il faudrait voir de plus près. C'était ça, l'obscur. Et alors, se plonger dans l'obscur, c'est toujours un travail considérable. Hein. Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu. Qu'est-ce qu'il dit Baudelaire? Je ne me souviens plus ce qu'il dit. Adieu l'éclat de nos étés trop courts. Nous plongeons dans les ténèbres. C'est un peu comme ce que dit Henri Michaud, imitant d'ailleurs Shakespeare. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Henri Michaud, il dit ceci. Fouille, 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 dans la marmite de son ventre est un grand secret. On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne, on cherche nous aussi le grand secret. Indifférent désormais à toute question d'épingle, de ritou, sur les petits pois d'épingles et autres menus de menus sens perdus et comptant sur un plateau de 4000 mètres dans toutes les directions. Voilà quel était mon état. J'essayais aussi d'explorer les ténèbres et d'essayer de comprendre comment d'autres pouvaient s'intéresser à ce que moi, ça ne m'intéressait pas. Ah, quand j'ai pu mettre un peu de lumière dans certaines de ces obscurités, quel plaisir ça a été de dire enfin, j'ai compris. Vous voyez, il y a un détail qui me revient. Il y a quelque chose qui m'avait choqué en lisant les évangiles. C'est l'histoire du figuier maudit. Jésus a soif. Notons, moi, parle très bien d'ailleurs de cet épisode. Jésus a soif. Il s'approche d'un figuier, ce n'était pas la saison des figues. Il n'y a pas de figues, il maudit le figuier qui se dessèche. C'est pas possible que mon guide, si lumineux, je suis la lumière et la vie, mon pote ait fait un miracle de ce type. C'est absurde, tous les miracles qu'elle fait vont dans le bon sens, et non pas dans le sens de la mort. Ah, ça me turlipinait cette histoire. Il doit y avoir quelque chose quelque part, là. Alors, j'ai vu qu'en effet, dans l'évangile de Marc, c'est ce qui est dit. Marc, vous savez, c'est un peu naïf. Hein. Matthieu le reprend, limite. Et il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était pas la saison des figues. Alors il supprime, ce n'était pas la saison des figues. Ça devient un peu plus compréhensible, mais enfin quand même. Et Luc arrive, il lit Marc, il lit Matthieu, et il dit, comme moi, il dit, ça va pas. Et il le transforme. Et il dit, Jésus raconta une parabole, c'est l'histoire d'un paysan qui avait un figuier qui ne produisait pas de figues, il l'a bâti pour que la terre puisse être productrice. Oh, enfin, quand il y a eu de la lumière, j'ai compris. Il s'était trompé, c'était la troisième version qu'il fallait prendre et pas la première. Il s'était trompé. Alors quand il y a un peu de lumière qui arrive dans ces ténèbres, j'en suis vraiment très heureux. Quand le raisonnement aboutit à un rayonnement, quand il y a un ray de lumière comme ici qui arrive dans la pénombre, oh quel plaisir!
La deuxième partie du livre concerne l'Apocalypse. Il y a tout un imaginaire aussi autour de l'Apocalypse. Ça a été énormément repris dans l'histoire de l'art, notamment dans le cinéma, vous en parlez aussi. Alors, vous avez une thèse, enfin, je ne sais pas si c'est votre thèse en tout cas, mais vous faites un lien entre donc, l'Apocalypse selon saint Jean et la prise de Jérusalem et du temple, notamment de Jérusalem, par les Romains en l'an 70. Alors, deux petites questions, peut-être une première question autour de l'Apocalypse, nous rappeler un petit peu ce que c'est, parce qu'on connaît l'Apocalypse de Jean, mais c'est une vieille tradition juive, il y avait des Apocalypses avant, celui de Jean, d'ailleurs qu'on attribue à Jean, on ne sait pas très bien qui c'est la première Apocalypse chrétienne. Alors, peut-être rappelez-nous un peu l'identité de ce texte, et oui, si vous pouviez nous expliquer effectivement le lien que vous faites.
Ben oui, je crois qu'en effet, je suis le premier à dire que le point de départ, c'est un texte écrit en hébreu ou en araméen, c'est pas, enfin, dans une langue sémitique en tout cas, l'écriture, la traduction grecque le montre, par un juif désespéré en même temps plein d'espoir pour l'avenir, qui a vu le saccage de Jérusalem en l'an 70 par les troupes menées par Titus. Il a vu la destruction du temple et les Romains ne sont pas ses amis, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, toute l'Apocalypse est un pamphlet contre l'Empire romain. Le pamphlet d'un juif contre l'Empire romain. Et ce juif-là, il avait des raisons de se plaindre. Et alors, Alors, ce n'est pas moi qui ai dit il y a un texte juif antérieur. D'autres l'ont dit avant moi. Mais personne n'a dit c'est un juif presque contemporain de l'écriture. En 70, ça s'est passé. Or, en regardant le texte, on s'aperçoit que tout le confirme. Hein. Alors, d'abord, il s'agit bien de Rome, hein, avec les sept têtes qui représentent les sept collines de Rome, généralement, et les dix cornes qui représentent... Alors là, bon, il y a un certain flou, mais en gros, on peut dire, on peut le dire parce que c'est dit dans l'Apocalypse elle-même, que ce sont soit des rois satellites, du genre Hérode, hein, soit des gouverneurs de provinces romaines, du genre Ponce Pilate, 10 au total. Il s'agit bien d'un pamphlet contre Rome, hein, mais d'un pamphlet de quelqu'un qui a des raisons. Et en effet, on s'aperçoit que le temple est constamment présent. Il est question de l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, ce n'est pas un symbole chrétien, c'est un symbole juif. Ça n'entre pas dans la panoplie des objets sacrés du christianisme. Il est question des sept esprits de Dieu. Qu'est-ce que c'est que les sept esprits de Dieu dans le christianisme? Il n'en est pas question. Mais dans la religion juive, oui, ce sont les sept flammes du candélabre qui sont associées à des adjectifs qu'on peut appliquer à Dieu. Qu'est-ce que c'est que les 24 vieillards? Ça n'entre pas dans la mythologie chrétienne, les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont les 24 degrés des serviteurs du temple. Il y avait 24 degrés dans la hiérarchie des services. Et puis, bon, ce personnage qui apparaît, qui a une épée flamboyante à travers la bouche, qui a les deux pieds de bronze. C'est le Jésus de Galilée? C'est mon pote, ça? Non, c'est pas mon pote. C'est bien Christos. C'est bien le Christ. Christos, c'est la traduction grecque de Messia, du Messie. C'est bien le Messie des Juifs. Mais ce n'est pas le Messie de Galilée. Hein. Il n'en a pas l'allure. Donc tout m'a confirmé dans cette hypothèse, en regardant tous les détails, qu'il s'agissait de Juifs, avec quelqu'un qui connaît très très bien les Écritures. Il y a des pages qui sont uniquement des collections de citations des prophètes et de la Bible. Et par la suite, ce texte-là a été traduit en grec et a été christianisé par un judéo-chrétien de l'école johannique d'Éphèse. Et par conséquent, a été christianisé, mais bien mal, bien mal. D'ailleurs, avant d'être reconnu comme canonique, l'Apocalypse a dû attendre pas mal. Hein. Vestibule, c'était long. Hein. Il a fallu attendre le 5e siècle en Occident pour que ce soit enfin admis. Et avec des docteurs de l'Église qui étaient contre... à Origène d'Alexandrie, qui alors est très opposé à l'introduction de l'Apocalypse dans le canon chrétien. Je pense à Eusèbe de Césarée également, qui était très opposé. Ça a duré très longtemps. Et en Orient, ça a été encore plus grave, parce qu'en Orient, on a bien vu que c'était quand même un pamphlet contre l'Empire romain. Et les Byzantins, en Orient... n'aimait pas beaucoup qu'on attaque l'Empire romain, dont il se disait les descendants. Il a fallu attendre le 8e, le 9e siècle même, en Arménie, pour que l'Apocalypse soit reconnue comme texte canonique. Donc voilà, je pense que j'ai mis cette hypothèse, mais je me suis efforcé de la prouver.
Oui, 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 avec force détail. Effectivement, vous citez... l'articulation du texte aussi en trois temps, en trois séquences, Donc c'est effectivement...
Alors après, évidemment, il y a eu tout cet avenir absolument considérable. D'abord parce que la légende selon laquelle c'est l'apôtre Jean, il aurait eu 90 ans, on dit qu'il a, été persécuté par le gouvernement de Domitien. Domitien n'a jamais persécuté les chrétiens. Néron n'a jamais persécuté les chrétiens. Ça, c'est plus dur à faire avaler.
On va y venir.
C'est pas les chrétiens qu'il a persécuté. Il a persécuté les juifs zélotes. Et Tacite, qui ne connaît pas très bien ni les juifs ni les chrétiens, dit les chrétiens ont commis des abominations. Quelles abominations? Son ami Pline, qui était procurateur en Bithynie, dit qu'il a cherché s'il y avait des abominations, flagitia, hein, et il n'en a pas trouvé. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tacite n'aimait pas Néron, oui. Et puis, les chrétiens étaient connus à son époque, mais il s'agit de 60 et non pas de 120 de notre calendrier. Voilà, donc...
Oui, puisque vous parlez des persécutions, justement, c'est intéressant, parce que, vous dites que c'est un fait avéré, mais c'est un fait d'histoire qui est instrumentalisé, en fait.
Ah ben oui, alors pour l'histoire des persécutions, on retrouve ce type d'instrumentalisation, en effet. C'est-à-dire d'intrusion de la théologie dans l'histoire. Il y a une histoire des persécutions des chrétiens. On ne va pas la nier. Il y a des documents qui prouvent qu'ils ont été bel et bien persécutés. Mais pas comme la légende l'a rapporté. Autrement, la légende dit quoi? Elle dit qu'il y a 10 persécutions. Alors on peut les nommer, Néron, Domitien, Trajan, Marc Aurèle, etc. Bon, on peut les nommer.
Et en plus, vous les étudiez chacune, cas par cas. Oui, oui.
Bon, pourquoi est-ce qu'il y en a 10? Mais parce qu'il faut que ce soit en concordance avec l'Ancien Testament. Il y a 10 fléaux qui viennent d'arriver. Il faut que ce soit mis en concordance avec les 10 fléaux qui sont racontés dans l'Exode, c'est-à-dire les 10 fléaux envoyés par Yahvé contre Pharaon. Il faut qu'il y en ait 10. Alors on s'est débrouillé pour qu'il y en ait 10. Voilà. D'autre part, il y a cette idée que si vous voulez obtenir votre salut, il faut passer par une série d'épreuves. Comme le Christ qui a dû subir un tas d'épreuves avant de pouvoir monter au ciel. Donc les persécutions sont nécessaires pour obtenir la victoire finale, ce qui prouve bien que Dieu est derrière et que c'est lui qui mène les événements. C'est-à-dire que nous avons une histoire providentialiste qui remplace l'histoire épiphénoménale, hein, les circonstances et puis d'autres circonstances, qui étaient celles des analystes et des historiens romains. Voilà. Alors, c'est plus de l'histoire, c'est de la théologie. Démontrer que Dieu est présent à l'histoire et que sa présence se fait sentir constamment, et je vous le prouve, puisqu'il y a eu 10 persécutions, ce qui montre bien que c'est Dieu qui est derrière, puisqu'il a fait comme il avait fait avec Pharaon, etc. Vous voyez, le mélange, ça me trouble énormément, ça me gêne énormément, parce qu'il y a constamment une ambiguïté, et quelquefois une volonté de maintenir l'ambiguïté, entre ce qui est de l'ordre de la mythologie, et c'est très bien la mythologie, et c'est très bien l'imaginaire, et il ne faut pas censurer l'imaginaire, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Quand on veut dire le réel, oh, le réel, non, c'est pas le réel. Le réel, c'est l'impossible, comme disait quelqu'un qui est peut-être encore connu aujourd'hui, je ne sais pas, il s'appelait Lacan. Le réel, c'est l'impossible, oui, c'est toujours derrière l'horizon. C'est un peu comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans l'horizon, vous courez derrière, vous croyez l'avoir attrapé. Non, notre horizon se manifeste. Le réel, il est toujours derrière l'horizon. Alors tout ce qu'on peut faire, eh bien, c'est imaginer, et qu'on ait le droit d'imaginer, bien sûr. Et c'est penser. Mais penser, là, il y a des règles. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas inventer n'importe quoi. Le langage permet de dire n'importe quoi. Mais quand on veut vraiment faire du logos et non pas du mutos, eh ben, y a des règles à suivre. Il faut les suivre et il ne faut pas mélanger. Et moi, en définitive, ce qui me gênait dans cette histoire entre le clair et l'obscur,
oui.
C'est que on était toujours dans l'entre-deux. Hein. On ne sait jamais si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est une mythologie, c'est-à-dire une légende qui a une signification, hein, mais qui ne correspond pas à des choses arrivées. Hein. Et puis d'autre part, ce qui concerne le logos, c'est-à-dire la pensée, raisonner, et quand le raisonnement devient un rayonnement, comme disait Averroès, le philosophe de Cordoue, il y a une béatitude, il y a une extase à voir se développer un beau raisonnement. Oui, le raisonnement devient rayonnement dans ce cas-là.
Oui, puis c'est vrai que dans le cas des persécutions, effectivement, comme vous le dites, on a le point de vue des vainqueurs, en général dans l'historiographie, et non pas des vaincus. Et c'est aussi toute la martyrologie qui est en train de naître, avec également épiphénomène, mais le début aussi du commerce, du sang des martyrs, vous l'expliquez, qui a été récupéré, et qui donne ensuite naissance aussi au commerce des reliques des saints.
Ah ben oui, ça, l'économie s'en mêle aussi, bien sûr. C'est vrai que dans ce troisième chapitre, concernant les persécutions, j'ai essayé de me mettre à la place d'un vieux Romain. Alors, qui voit cette religion, elle n'est pas la seule d'ailleurs, venue d'Orient, qui entre chez nous, ils prennent des places. Les chrétiennes, les femmes chrétiennes, elles sont très... travaille énormément pour la cause. Hein, on disait, le christianisme, il n'y a que des victimes. C'est pas vrai. Ils étaient à la conquête de l'Empire. Et ils avaient deux armes. C'est les soldats et les femmes. Les femmes chrétiennes épousent des gens haut placés. Jamais on ne m'a dit au catéchisme, moi, qu'il y avait des impératrices romaines épouses d'empereurs païens. La femme de Commode, le fils de Marc Aurèle, était chrétienne. La femme de Dioclétien, celui qu'on appelle le bourreau de la dernière heure, et qui, là encore, il faut revoir tout ça. La femme de Dioclétien, qui s'appelait Prisca, elle était chrétienne. Sa fille, qui s'appelait Valérie, était chrétienne. Elles ont été martyrs, Prisca et Valéria. On ne le dit pas, ça. Il y a bien une sainte Valérie, mais c'en est une autre. C'est la fille d'un gouverneur qui ne voulait pas se marier pour aller au couvent et qui a perdu la tête. On lui a coupé la tête parce qu'elle ne voulait pas se marier. Bon, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Valéria, la fille de Dioclétien, qui a été mise à mort par Licinius. Mais elle n'est pas sainte. Alors il y avait au départ, et cela interrogeait énormément les vieux Romains, cette institution du sacré à l'intérieur des choses matérielles. Le sang des martyrs était sacré. Les femmes mettaient des mouchoirs, des tissus sur l'estrade où ils étaient décapités pour recueillir le sang. Et le sang, le drap taché, devenait une relique sacrée. C'est pas encore le commerce, mais le commerce viendra, le commerce va se mêler de l'affaire un peu plus tard. Mais dès le départ, on voit les Romains trouver ça complètement absurde. C'est une religion étrangère, ils viennent nous investir, hein, et ils le prennent par l'intermédiaire des femmes qui se marient avec des gens haut placés et par l'intermédiaire des soldats, puisqu'ils s'engagent dans l'armée. On prend des barbares qui viennent d'Asie ou qui viennent du Nord et qui sont convertis au christianisme déjà. Les Romains de Rome et d'Italie ne le sont pas encore tout à fait. Mais dans les pourtours, oui. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils entrent dans l'armée. Et ensuite, quand on demande d'autres soldats, ils font appel à leur corps religionnaire. Ils arrivent à avoir une majorité à l'intérieur de la troupe. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent à avoir un officier qui ait la même religion. Ça s'appelle de l'entrisme. Et ben, ils ont bien fait, puisqu'ils ont gagné, puisque ça a marché. Ils ont bien fait de faire comme ça. Et puis, il y a quand même autre chose. Non, ne croyez pas que je minimise cette histoire. S'ils ont gagné, c'est pas seulement pour ça. Ça, c'est la méthode. Mais il y a le fait que le christianisme, merci Jésus, le christianisme a porté des valeurs, les cinq piliers du christianisme, aimez-vous, aidez-vous, laissez venir à moi les petits, parle à la Samaritaine, pardonne. Tout cela, les Romains, les païens ne l'avaient pas. Vous voyez le jeu du cirque. Comment est-ce qu'on peut se comporter de cette manière ? Quand on est le peuple le plus civilisé du monde à l'époque. Le christianisme apporte des valeurs supérieures. C'est surtout ça qui l'a fait gagner.
Vu que nous sommes quand même assez nombreux ce soir, je vais peut-être déjà commencer à laisser la parole à certaines personnes qui voudraient éventuellement interroger Claude Gilbert Dubois. Alors, il y a un micro qui ne va pas tarder à venir.
Alors,
Bien que vous ayez une voix qui porte.
Mais... Avant qu'on commence, si vous voulez, je voudrais adresser des remerciements d'abord à la librairie Mola, qui organise des séances semblables chaque fois que j'ai sorti un livre depuis Mythologie de l'Occident, qui a dû avoir lieu en 2007. Et puis à Arnaud de Guel et à Marie Schweitzer, qui sont les organisateurs de cette séance. Je remercie également ceux qui sont ici, et je sais que certains d'entre vous viennent parce qu'ils ont été avertis par un message de l'Académie des arts, sciences et lettres de Bordeaux. Je remercie donc Alain Béraud d'avoir transmis le message. Je remercie également les personnes qui viennent de l'UTL de Bordeaux. Je sais que M. Amiot a lui aussi fait ce message. Je remercie également l'UTL de Créon. Je remercie les anciens étudiants de Montaigne qui m'ont eu pour professeur un moment de leur vie et qui sont venus me voir. Je remercie également les membres des sociétés où j'ai quelques activités, notamment l'Ardua, Gérard Pellé a averti tout le monde, le CECF, Paulette Bloch en a fait autant, l'ACLA avec Olivier Auberçon, le H32 et CLAR, dont le président, dont la directrice a également annoncé cette séance. Et puis je remercie tous mes amis, toutes mes relations, tous mes collègues qui sont venus ici m'écouter. Je remercie également ceux qui m'ont aidé. Alors, les principaux, je les ai nommés dans l'ouvrage. C'est Daniel Boller, c'est Gisèle Castellani, c'est Jean-Claude Mathieu, c'est Daniel Jamraoul qui m'a accueilli à nouveau après que je me sois éloigné des Dolonnes dans la collection et qui a également participé à la mise en page, au formatage. Je remercie surtout Nicole Pelletier qui a mis toute son ardeur pour arriver à cette publication et qui elle aussi a participé à l'élaboration formelle du texte. Et je remercie aussi Joël Thomas, mon collègue spécialiste de histoire et littérature latine du 1er siècle, qui m'a vivement encouragé dans les directions de recherche qui étaient les miennes dans cet ouvrage. Voilà, je remercie donc toutes ces personnes et surtout, je voudrais dire ma dette à l'égard des étudiants des UTL de Créon et de Bordeaux, parce que sans eux, j'aurais pas écrit ce livre. C'est par un dialogue permanent, les questions qui m'ont été posées, les débats qui ont eu lieu au cours de ces 15 années d'exercice, que j'ai pu peu à peu me découvrir moi-même dans cette recherche.
Merci beaucoup, Claude Gilbert Dubois. Et merci à vous.